Radio Okapi.
Un jour, une histoire.
C'était le 30 octobre 1974. Mobutu Sese Seko, chef de l'État, avait rebaptisé le Congo Zaïre et a ainsi organisé un combat historique entre Mohamed Ali et son compatriote George Foreman. La joute s'est déroulée dans l'actuel stade Tata Raphaël. The Rumble in the Jungle, peut-être le match le plus mythique de l'histoire de la boxe, qui a inspiré un documentaire extraordinaire, When We Were King. Mohamed Ali affronte à Kinshasa au Zaïre le nouveau maître des poids lourds, George Foreman, qu'il a pulvérisé. Mohamed use de la guerre psychologique pendant la préparation de la rencontre et joue des cordes lors des premiers rounds, usant Big George. Et au 8e round, il passe de l'offensive au chaos, resté dans la légende sous le cri Ali Boumaye de la foule. Bienvenue à ce magazine Un jour une histoire qui s'intéresse aujourd'hui à ce combat du siècle. Je suis Pamela Mounazomoilou, Jean-Marc Matuaki à la supervision et puis Mimi Kindou assure la prise de son. Et pour parler de ce sujet, nous aurons dans quelques instants un invité. Il s'agit de Kabbala Mouanambouy, Pierre Célestin. Il est journaliste, président de l'Association des journalistes sportifs, également membre du comité organisateur du combat Foreman Ali. Bienvenue une fois de plus à ce rendez-vous. Je vous retrouve dans quelques instants. Vous êtes à l'écoute de Radio Capi. Comme annoncé dans le sommaire de notre émission, nous retrouvons notre invité. Nous avons donc quitté le studio de Radio Capi pour retrouver Monsieur Kabbala Mouanambouy, Pierre Célestin. Il est journaliste, président de l'Association des journalistes sportifs, également membre du comité d'organisation du combat Foreman Ali. C'est justement dans ce contexte que nous le rencontrons. Bonjour.
Bonjour Madame Pamela.
Merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est avec plaisir.
Alors, puisque vous avez été membre de l'organisation de ce combat du siècle, comme on l'appelle, j'aimerais un peu qu'on remonte avec vous dans le temps. On aimerait un peu comprendre, c'était dans quel contexte que ce combat avait été organisé? Est-ce que c'était par un coup de tête du feu président ou quel était le contexte à l'époque?
Coup de tête, peut-être oui, mais les contextes peuvent se situer de cette manière. Nous sommes en cette année-là, 73. Le régime du président Mobutu est soumis à beaucoup de tracasseries sur le plan international. Et puis il se présente à la tribune des Nations Unies avec sa toque de léopard et une canne. Et il tient un discours sulfureux, au cours duquel il remet en question toute la politique internationale. Il condamne la poursuite de la colonisation sur le continent africain, avec l'Angola, la Namibie, le Zimbabwe, et ainsi de suite. Il condamne tout le monde, il parle d'impérialisme, et puis il parle du conflit du Moyen et Proche-Orient. Et puis il s'est dit, bon, une phrase assassine qu'il lance, et dit, entre un frère et un ami, le choix est clair. Alors il opte pour ses frères arabes, au détriment d'Israël, qui avait formé toute son armée et toute sa sécurité. Alors les lobbies juifs s'est mis en branle et Mobutu est vraiment mis à rude épreuve. Mais alors, quelque part, comme les destins sont ce qu'ils sont, il y a un certain Cassius Clay, qui lui, après avoir été champion du monde quelques années plus tôt, il avait refusé d'aller combattre au Vietnam. Parce que tous les jeunes qui étaient vigoureux étaient recrutés pour aller combattre au Vietnam sous les drapeaux américains. Cassius Clay refuse d'aller combattre et il est condamné, il est mis en prison. Il reste plusieurs années en prison, mais il rêve de reconquérir son titre parce qu'il se disait le plus beau, le plus fort, le plus grand de tous les boxeurs. Et avant d'aller en prison, il avait mis au tapis tous les grands boxeurs avant lui, tous les champions du monde. Alors il s'est dit, il faut que je quitte la prison et que je recouvre mon titre. Mais ce titre est détenu pendant ce temps par George Foreman, qui lui aussi mettait tout le monde KO avant le cinquième round. Il était plus grand que Cassius Clay ainsi. Et en prison, il rencontre un certain Don King, et qui lui aussi, noir-américain, était emprisonné pour avoir porté un coup de poing à quelqu'un qui était mort, un blanc. Et voilà, qui se retrouve, qui se disent, lorsque nous sortirons d'ici, Don King était un organisateur de boxe, il dit, je vais te permettre de reconquérir ton titre. Et à la sortie de la prison, Ali prend la décision de se convertir à l'islam, et change donc son nom de Cassius Clay pour prendre celui de Mohamed Ali. Et il effectue une au Moyen-Orient, et il va voir les pays arabes pour dire, je viens saluer mes frères de sang et de cœur. Ceux qui ne veulent pas porter le sang des autres. Il va faire la reconnaissance. Dans l'entretemps, Mobutu aussi, sans savoir ce qu'Ali était en train de faire, il effectue une tournée dans les mêmes conditions. Après avoir dit qu'entre un frère et un ami, le choix était clair. Nous sommes en début de l'année 1974, nous sommes au Caire, nous sommes allés pour la Coupe d'Afrique des Nations, que les Aïrs avaient remportée en ce moment-là. Et c'est par un pur hasard que nous apprendrons que... Mohamed Ali et Cassius Clay étaient là pour saluer ses frères arabes. Et nous étions une petite délégation de journalistes, nous irons voir, et puis nous allons propager l'information à notre représentation diplomatique qui va en informer le président de la République. Alors il dira, non, il faut que je le rencontre, et ça sera en dehors de nous tous. Mais avant que ça soit rencontré, quand nous avons parlé avec Ali, avec un interprète évidemment, M. Sassa va lui demander, mais... Pourquoi ne penseriez-vous pas à organiser votre championnat en Afrique? Il dit, justement, c'est pour cela que je suis là. Mais je connais un seul pays d'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Pour lui, le seul pays qu'il connaissait, c'était la Côte d'Ivoire. Et le seul président qu'il connaissait, c'était le président Oufet Boigny. Mais nous sommes du Zaïre. Il ne voyait pas le Zaïre. Comme tout le monde ne voyait pas le Zaïre après le Congo. Il ne voyait pas où se situait le Zaïre, tout ça. Les gens étaient en train de chercher. Ils se disaient, d'autres disaient, oui, Lumumba. D'autres disaient, c'est la jungle où il y a encore de singes. Et pour d'autres, c'était la bombe atomique. Alors, il faisait des allusions comme ça. Il ne connaissait pas très bien le Zaïre aussi. Les autres disaient, avec le président à la toque des léopards. Et voilà comment ça se passe. Et Mobutu rencontre Mohamed Ali.
Est-ce que pour Mobutu, c'était une occasion de se blanchir ou de se redonner une autre image au niveau international, finalement?
Nous n'avions jamais sondé ses idées, mais nous avons compris par la suite qu'il avait envie, effectivement, de faire le marketing du nouveau pays Zaïre, qui n'était pas connu du monde entier lorsqu'il a parlé à la tribune des Nations Unies. Alors ça lui faisait mal au cœur de voir que son pays n'était pas bien identifié de par le monde. Il devait se réhabiliter vis-à-vis du monde. Et c'était l'occasion, en rencontrant Ali qui menait un combat pour la dignité de l'homme noir aux États-Unis, et Mobutu qui prenait le recours à l'authenticité, et voilà, les deux destins vont se croiser. Et on mettra en jeu tout l'arsenal avec tous les experts, Don King en tête, avec un certain John Deller, qui était un Sud-Africain naturalisé américain, et qui était un homme d'affaires, très prospère, et il se portera garant. Il dira dans un premier temps, pour couvrir la garantie de l'organisation, il mettra un chèque en jeu. Et voilà comment ça va se situer. Mobutu dira, dès que je rentre au pays, ça va se réaliser très vite. Imaginez-vous, nous étions en janvier, et mars, ça s'est décidé, ils disent qu'il faut organiser le combat en septembre. Et on ne voyait pas ce que cela représentait. Oui, et quand nous sommes rentrés après avoir emporté le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, le Zaïre avait le vent en poupe sur le plan sportif. Et quand nous rentrons ici, nous sommes convoqués, notre président de la corporation, feu Lucien Chimpumpu en tête, la présidence à la République, le problème sera posé. Il faut qu'on organise le championnat du monde de boxe. Et quelle boxe de poids lourd à Kinshasa? Personne n'en revenait. Et à la présidence de la République, personne ne savait par quel bout allait-il commencer. Et ils ont dit non, il faut se confier aux journalistes des sports. Et parmi nous, le plus huppé était Lucien. Il dira oui, mais ça coûte énormément cher. Alors on dira, c'est pas votre affaire. Votre affaire, c'est de nous dire comment ça peut s'organiser. Le reste, c'est l'affaire du président de la République. Et on va le déléguer avec feu Mandungu Bulanyati, qui était conseiller principal de la présidence de la République. Ils iront aux États-Unis pour prendre les contacts nécessaires aux fins d'organiser ces combats. Et dans l'espace d'un mois, Chimpumpu va apprendre l'anglais américain. Ah, c'était extraordinaire, wow. C'était un exploit. Vraiment. Et pour bien avoir ses contacts, il devait apprendre l'anglais américain. Mm-hmm. Et il prend donc contact et avec le staff de Mohamed Ali et le staff de George Foreman et Don King qui était en tête qui les conduisait. Et cela sera scellé. On va accepter, la délégation américaine viendra ici pour voir le pays, voir à quelles conditions cela devrait s'organiser. Ils vont nous donner des conseils pour réfectionner le stade, l'adapter aux conditions d'organisation. Ils vont dire un briefing général. La guerre se déclenche à travers l'Europe.
Alors, pour ceux qui viennent à peine de nous rejoindre, je rappelle que vous suivez votre magazine Un jour une histoire. Nous avons notre invité. Il s'agit de M. Kabala Mwanambui. Là, nous le recevons en tant que membre du comité d'organisation du combat Foreman Ali, dont nous parlons dans cette émission. Vous parlez de ce combat qui commence, on va dire, en Europe, qui se déclenche. Pourquoi ? Tout le monde veut à tout prix venir au Congo. Le Congo devient le centre d'intérêt, je dirais, grâce à ce combat ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment-là ?
Le Congo devient le centre d'intérêt, en bien pour les uns et en mal pour les autres. Parce que pour l'Europe, jamais un autre pays que l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Argentine n'avaient organisé un championnat du monde de boxe des poids lourds. L'Europe ne l'avait pas encore fait. Alors les gens vont crier au scandale, vont se dire c'est pas vrai, un pays sous des, un pays en crise. Et en plus, ils commencent à traiter Mobutu d'assassin, il y a des cadavres qui jonchent les rues à Kinshasa, c'est la jungle. Julio Iglesias va composer une chanson et les grands matchmakers, les organisateurs du monde vont dire pas Kinshasa avant que l'Europe n'ait organisé ce combat. Ils n'ont aucune capacité de le faire, ils n'ont aucune qualification, ils n'ont pas de moyens. Mais Mobutu, tel qu'il était, c'était un homme entêté, obstiné et il est parti dans les dits, c'est bien qu'il dise ça, pour nous l'essentiel c'est d'organiser. Alors, tous les accords étaient passés, ils avaient signé des contrats avec une bourse faramineuse pour les boxeurs, vous vous imaginez. Quand on dit qu'il fallait $1 million pour bourse, alors aucun matchmaker n'avait accepté une telle bourse. Mm-hmm. Mais Kinshasa avait accepté. Il a dit, c'est pour l'honneur n'a pas de prix. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va nous dire que nous allons organiser ces combats sans l'apport de qui que ce soit.
C'est-à-dire
que nous n'avions pas besoin de l'Europe, parce que l'Europe était contre nous. Alors, tout devait être fait par les enfants du Zaïre.
Est-ce que le cadre était bien installé, les conditions dans lesquelles les sportifs devaient arriver étaient remplies pour qu'ils puissent se retrouver justement dans les normes ?
Rien au préalable, Madame Pamela. Rien au préalable. Imaginez-vous que c'était une ville qui avait encore besoin, bien sûr qu'on nous appelait ville lumière en ce moment-là, il y avait Abidjan et Kinshasa, mais ce n'était pas suffisant que pour organiser un tel événement de portée mondiale. Et l'industrie hôtelière était en deçà de standards internationaux sur le plan touristique. Alors il y avait tout cela à faire. Voilà comment nous devrions, avec un comité d'organisateurs qui était bien constitué avec les représentants de la présidence de la République, et dans chaque secteur, au niveau des télécommunications, au niveau de la télévision, au niveau... Et tous les experts, nous étions réunis pour donner les indications qu'il fallait et faire un dossier bancable pour l'organisation de ces combats. Et à chaque fois que nous avions des réunions sectorielles, et après on s'est retrouvés au niveau du comité organisateur. Et en exposant, nous avons constitué ce qu'il fallait, on a monté le dossier et on a chiffré pour arriver ce qu'il fallait, plus de $100 millions, oui, qu'il fallait, et les travaux ont commencé. On a... électrifier toute la ville de Kinshasa jusqu'au niveau d'Nselé. On a réfectionné la cité d'Nselé, on a retapé l'industrie hôtelière et on a permis aux Zaïrois, en ce moment-là, qui avaient des hôtels en chantier, de les parachever sur financement public. Les gens qui avaient des villas en construction, ils devaient les parachever pour recevoir les visiteurs. Et puis, la télévision, nous avions requinqué notre équipement avec une commande faite vers les États-Unis parce que notre équipement était américain en ce moment-là. Et voilà, et tout, et tout. Et nous allons réfectionner le stade qui est le stade du 20 mai en ce moment-là. Il était totalement retapé. Nous avions là où il fallait loger les gens avec un hôtel à l'intérieur. Et nous avions tout et nous avions monté les rings qu'il fallait. Et nous, en scellé, on avait logé Foreman à gauche, Ali à droite. Ils étaient bien séparés et les villas étaient adaptées à la circonstance. Et comme nous avions notre station terrienne de télévision, l'une des premières en Afrique, et nous étions sûrs d'avoir une retransmission impeccable. Alors imaginez-vous, nous avons commandé des véhicules On a commandé 100 bus qui avaient servi au transport des athlètes à la Coupe du Monde en 1974 en Allemagne, et des centaines de voitures, et avec des minibus, ainsi de suite. Et voilà ce qui a fait notre affaire. Voilà. Et dites-vous, Madame Pamela, que l'industrie hôtelière de Kinshasa est partie à 10 000 lits. Au point que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore égalé, on ne l'a même pas approché le record de fréquentation touristique.
Quelle était l'ambiance qui régnait justement dans la ville? Les Kinois étaient impatients de voir, de vivre ce combat ou comment? Comment ça se passait?
Madame Pamela, Kinshasa était d'abord, et le pays tout entier était, c'était sportif d'abord, il faut dire, et ils ont eu la chance de suivre avant les combats, le combat personnel de Mohamed Ali. Et quand il boxait, et comme nous avions la station terrienne, nous avions toujours l'habitude de recevoir les images. Et en Afrique, nous étions les premiers à recevoir toutes ces images. Donc la réputation d'Ali l'avait précédé ici. Et les gens se sont dit, c'était une légende. Et les gens avaient hâte de le voir des visus ici. Et surtout quand on avait assorti cela d'un festival de musique afro-américaine. La dame qui vient de nous quitter, Aretha Franklin, était ici. Et donc toutes les vedettes afro-américaines de musique et de, les champions du monde de boxe et les gens de théâtre avaient pris rendez-vous pour Kinshasa. Donc c'était un rendez-vous extraordinaire. Donc tous les Johnny Pacheco, Myriam Makeba, Barry White, Stevie Wonder et tous, ils avaient pris rendez-vous pour James Brown. Tous, ils étaient venus ici. Et vous voyez ce que cela faisait.
Et le jour J, finalement, il arrive. Comment ça se passe ce jour-là?
Vous savez, c'était extraordinaire. Et quand Ali a pris l'avion aux États-Unis, à New York, quand il entre dans le DC-10 qui est piloté, il avait eu poussé la curiosité d'aller voir qui pilotait l'avion. Il arrive, il trouve le commandant Ilunga, le commandant Yasoloa, le commandant... Il trouve que c'était les Aïrois. Il tire la tête, dit, hein, c'est pas vrai. Cet avion est piloté par vous, monsieur? Il dit, oui. Il dit, vous pouvez voir comment il dit, c'est pas vrai. Donc, nous les Noirs, on nous a pris pour des sous-hommes. Et moi, je suis Américain. Je vois qu'il y a d'autres Américains qui ne sont pas encore capables de piloter un DC-10. Et ce sont les Noirs du Zaïre qui pilotent un DC-10 qui me prend. Je suis fier d'arriver dans ce pays pour voir comment, chez moi, les gens vivent. Parce qu'on nous a dit qu'ils sont, ils ont encore des queues comme des macaques. C'est comme ça l'image qu'on avait là-bas. Alors, Ali était très fier. Et quand il arrive, l'aéroport était bondé de monde. Ali est arrivé avec sa femme Belinda. Il a embrassé le sol, il a dit... Je reviens sur ma terre natale, la terre de mes ancêtres. Et Foreman sera ici comme un étranger, comme un Belge qui revient au Congo, où il a colonisé les gens. C'était sa stratégie.
C'est deux personnes différentes.
Différentes, tout à fait. Un autre introspectif, très renfermé sur lui-même, ça c'est Foreman. Mais Ali, c'était un homme, la grande gueule et tout ça. Alors, justement, à l'aéroport, il commence à animer tout le monde. Il fait ses gestes de boxe. Il dit, Foreman, mais ici, il va tomber. Il dit, alors, plus tard, il va demander aux gens comment, quand il frappe quelqu'un qui tombe, quand je frappe fort, comment les gens lui disent, mais, Bomaye. Alors, c'est de là qu'est parti son slogan, Boumouye. Voilà. Il dit, allez, je vais justement le cogner. Il va. Vous voyez, c'est parti. Il avait la popularité à l'extrême. Et quelques jours après, c'est Foreman qui arrive. L'accueil n'était pas à la hauteur de celui d'Ali. Et Foreman était affublé de son chien, et donc tout le monde s'est méfié. Les gens avaient peur de l'approcher parce qu'il avait son chien, et puis il ne parlait pas. C'était un monsieur très réservé. Oui, et après qu'on les ait logés, finalement, les gens se sont dit, mais il est beau ce mec. Oui, c'est surtout les dames qui ont dit non, mais nous croyons que Foreman n'était qu'un brut, mais c'est un bel homme. Et ils ont constitué un club d'amis de George Foreman. Et ça s'est un petit peu calmé, mais Ali avait toujours le dessus de Foreman. Et cette ambiance a continué. Alors, Ali avait l'habitude de quitter très tôt, de faire le footing très tôt et de venir jusqu'ici en ville. Et Kinsele, il vient en faisant le footing. Quand il arrive, Et puis il improvise, il va au grand marché. Il se met à engueuler, à haranguer les gens. Oui, Ali Boumier, Ali Boumier, Foreman, va. Je cherche la plus grande sorcière. Du coup, pour me montrer comment je vais faire tomber ces types. Et Ali a pris contact avec une dame, ça quoi je ne crois pas beaucoup, mais je crois que c'était un fait réel, qui faisait des gris-gris, qui a dit, tu vas le taper, tes poings seront comme des abeilles qui vont le piquer et il va tomber. Et Ali était convaincu de cela. Okay. Jusqu'à ce qu'il a fait tomber Foreman, il lui a fait croire que c'était les abeilles qui le piquaient et qu'il allait tomber. Et vous savez ce qui était arrivé, l'incident qui avait précédé les combats, c'est qu'à l'approche de la date préalable, au mois de septembre, Foreman a été blessé à l'arcade sourcilière droite. Oui. Et comment cela a été arrivé? C'était précédé par une anecdote bête. Ali a dû quitter son camp, alors que le camp était protégé par la brigade mobile. Il a bravé le cordon de sécurité. Il est entré dans le camp de Foreman. Alors, il est allé dans la salle d'entraînement. Il a trouvé Foreman en train de faire le sparring partenaire avec un boxeur qui avait le style de Ali. Alors, Ali a lorgné à travers le klosra et puis il a crié, c'est, oh, tu vas tomber comme le foufou. Alors, allez, et puis il a fouillé. C'était un comédien sur le bord. Il a fouillé et ça a énervé Foreman. Alors, tout le reste de sa préparation, il a utilisé ce sparring partenaire pour, il dit, boxe comme Ali. Et le gars a boxé comme Ali et il a blessé. Oui, il a blessé. Alors, le combat a été reporté d'un mois. Le septembre, on devait le réaliser en octobre. Alors, l'Europe a jubilé. Ça y est, voilà, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Le combat n'aura plus lieu. Alors, on a mobilisé tous les spécialistes de la médecine pour soigner Foreman. Et
donc, ils étaient restés installés ici pendant tout ce temps.
Oui, ils sont restés, le président a dit. Et puis, ce que vous devez retenir, Madame Pamela, c'est que nous avons reçu beaucoup de touristes ici. Et comme ils avaient prévu pour un temps précis leur séjour ici, mais avec ces décalages, c'est la République qui les a pris en charge. Ah oui, tous les touristes qui étaient là, ils devaient passer dans des familles, chacun pouvait recevoir le genre. Ils ont mangé de mets traditionnels et ils ont aimé. Ça peut vous surprendre qu'ils aient apprécié les missili. Et Ali lui-même a goûté à ça. Il dit, de tout ce que j'ai mangé ici, c'est ça l'aliment qui me paraît que je n'ai jamais goûté.
Carrément.
Oui, il dit, pour lui, c'était le meilleur mets, les missili. Alors, ils sont restés pendant tout ce temps-là, jusqu'à ce que Foreman était guéri. Et puis, on avait réorganisé. Et enfin, on a eu notre combat. Alors, le jour du combat, il avait plu énormément à l'approche du combat. Alors, tous les sorciers de ces pays se sont mobilisés pour arrêter la pluie. Chacun a joué de sa manière pour que ça s'arrête. Et à quelques heures du combat, la pluie s'est arrêtée. On a balayé le stade et tout, on a imbibé les eaux qui étaient là, et l'heure du combat était là.
C'était quelle heure exactement et comment ça s'est passé?
3 heures du matin à Kinshasa.
Waouh, à 3 heures du matin, les gens sont quand même venus voir ce combat-là.
Mais c'est tous les jours que les gens allaient au stade, comme il y avait le festival de musique, du matin à X temps. Et ce jour-là, comme c'était fixé ainsi, pourquoi, me diriez-vous? C'est parce que, sur le plan international, les Américains devraient suivre le combat en direct. Avec le décalage horaire, il y avait des salles de cinéma et de stades qui étaient mobilisés, loués pour la retransmission en direct du combat aux États-Unis.
Et le combat avait duré combien de temps?
Eh bien, mais jusqu'au 8e round, c'était terminé. C'était terminé. Il faut dire que ça devait prendre, s'il faut prendre 3 minutes pour chaque combat, vous voyez, ça faisait une vingtaine, une trentaine de minutes. Et le combat était terminé.
Ali gagne. Comment ça se passe en ce moment-là?
Et alors, Ali gagne, c'est d'abord par son entrée et sa montée sur le ring. Il entre le premier. Il harangue toute la foule, le stade qui crie, il crie « Ali !» Et c'est tout le stade qui dit « Boumaïe Ali !» Il fait le tour du ring et puis il va dans son coin avec un homme de coin, Bundini, qui était une grande gueule, qui criait, qui l'incitait, là, dès qu'il arrive, tu vas lui faire ça, tu vas lui faire ça. Et puis Foreman qui arrive, et il monte sur le ring, il est très concentré, mais un peu timide aussi. Et il dit, Foreman, oh yeah! Alors, c'est, oui. Alors c'est une partie du stade qui répond. Alors, les gens ont compris que tous les Aïrois étaient pour Ali. Alors, il va dans son coin, il regarde Ali farouchement. Et alors, les gens, quand ils ont vu la différence de taille, d'allonge et tout ça, et les points se sont dit, Ali ne va pas résister. Et ça a failli être ainsi, vous savez. Alors, dès le départ, quand ils se sont croisés, au premier coup de Foreman, on a vu que ça a fait un pouf! Alors, c'est un flaque, donc ils ont monté la chance. Les gens ont crié, non, on ne veut pas regarder ça, Ali va tomber, Ali va tomber. Alors, Ali a fait le malin, il a senti effectivement que c'était sérieux. Mm-hmm. Alors, il avait opté pour une stratégie d'accrocher souvent Foreman jusqu'à l'amener au-delà de ses limites de résistance. Okay. Parce que Foreman n'allait pas au-delà de 3 rounds et il devait mettre ses adversaires KO. À lui, il s'est dit, il faut aller avec lui au-delà. Donc, il a joué à l'usure. Okay. Alors, chaque fois, il entraînait dans les cordes. Mm-hmm. Il entraînait et à un moment donné, Foreman lui avait asséné un coup qu'il avait envoyé au tapis. Alors il s'est ressaisi, il s'est remis, il a dit j'ai glissé. Et il dit allez, j'ai glissé, c'est pas ton coup qui m'a envoyé. Tu as de la chance. Mais maintenant, au cinquième round. Alors il s'est remis et puis il a dit tu vas voir ce que je vais faire de toi maintenant que tu m'as provoqué. Il est allé avec lui en ce moment-là, arrivé au huitième round, et il lui a dit à l'oreille Foreman, c'est fini pour toi. Voilà comment tu es fatigué maintenant. Tu es fatigué, tu n'as plus de force, maintenant je vais t'abattre. Et il est parti avec des séries de gauche-droite, gauche-droite, puis à un moment donné, boum! Et Foreman était tombé.
Et le stade était dans l'euphorie.
Le stade était dans l'euphorie. Alors, l'arbitre, c'était un Mexicain, l'arbitre du combat. Il a compté, compté, et Foreman ne se relevait pas. Il a dit, allez, vainqueur. C'est tout le monde qui voulait se jeter sur le ring. Autour du ring, il y avait 4 anciens champions du monde. Alors, comme le camp de Foreman voulait se maugréer, les gens ont dit non, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a envoyé au tapis. Et même quand Foreman se relevait péniblement, vous pouvez voir sous les images, après quand on l'a remis dans son coin, pendant que Ali continuait à vociférer et que Bundini lançait des colibés à... D'abord, je vais vous dire qu'Ali, dès qu'il a gagné, il est allé voir l'entraîneur de Foreman, Archibou, je t'avais battu, voilà comment j'ai battu encore ton poulet. Et Ali était un comédien. Alors il avait ça énervé un peu et puis c'était une fête jusque 48 heures plus tard. Les gens ont fêté partout, ils ont bu. Ali a laissé des souvenirs ici, il est allé reconstruire et affectionner la mosquée de Issoké. Et il y a des gens qui ont donné le nom d'Ali à leurs enfants. Ali est allé dans les familles. Et finalement, quand Foreman a pris l'avion et il est arrivé à Bruxelles, il a reconnu qu'Ali était le plus fort.
Et pour terminer, parce que là, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien, on va faire une pierre deux coups. Le 7 septembre de chaque année, ça nous rappelle la mort du feu président Mobutu. Vous avez eu à organiser le combat du siècle. On va dire la tête pensante était lui. Qu'est-ce que vous retenez de cette personne?
Mobutu était... ça remonte, hein. C'était d'abord humainement, c'était un homme qui avait des sens humanitaires. Comme homme, je l'ai vu et j'ai eu à l'approcher. Il m'a reçu personnellement comme journaliste en Europe. Je n'étais pas dans son sillage. J'ai eu à apprécier la grandeur de son âme. Il avait le sens de l'humanité. Et Mobutu avait peut-être les défauts de tout homme qui se prenait, vous voyez, du haut de sa taille et tout ça, et il se prenait pour, oui, le plus grand de tous. Et je crois que c'est là qu'il avait habité. Il a cherché à devenir plus grand que tous. C'est peut-être cela, il y a eu l'usure du pouvoir. Oui, et c'est ce qui a conduit à quelques égarements. Mais il y a eu aussi, je crois... l'entourage qui ne l'a pas beaucoup aidé à comprendre quand est-ce qu'il fallait céder. Mais comme personne humaine, vraiment, c'était un homme fréquentable. Et il n'aimait pas entendre qu'il y avait quelqu'un qui était malheureux quelque part. Par tous les moyens, il faisait tout pour que le malheur soit soulagé, la misère. Et puis, il avait une qualité que moi, j'apprécie. Il savait détecter des talents, des compétences à travers le monde. Quand il voyageait, il suffisait qu'il entende parler d'un médecin qui est capable de le faire. Il le fait vérifier. Mais je ne sais pas quel diable nous a piqué. Nous avons versé dans l'extravagance et l'occultisme aussi a tué ce pays. Oui, les gens ont créé des clans qui se sont bagarrés entre eux et ça nous a conduit à ce qui est arrivé.
Je crois que c'est par ici que va prendre fin à cette interview et même cette émission. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie et les auditeurs aussi.
Voilà, je rappelle que nous avions reçu pour vous Monsieur Kabbalah Monamboui, Pierre Célestin. Il est journaliste, président de l'Association des journalistes sportifs, également membre du comité d'organisation du combat Foreman Ali. J'espère que vous avez aimé ce numéro de votre émission Un jour une histoire. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet. Et en attendant, je vous dis agréable condition d'écoute de la suite des programmes sur Radio Capi et à très vite.